Bonsoir, bienvenue à toutes et tous, merci d'être là. On n'est pas super nombreux ce soir, on espère compenser avec la qualité de la discussion par la suite. Moi je vais faire le petit speech d'introduction que désormais c'est l'habitude dans nos soirées, brièvement présenter notre association et après introduire un tout petit peu l'argument de ce soir. Donc, on a organisé cette soirée sur la question de l'anticommunisme et la grève générale de 1918 comme atelier l'histoire en mouvement. L'atelier, l'association qui est née en 2014, vraiment active depuis 2015 environ, et dans le but, disons, est de révaloriser et de reparler de l'histoire du mouvement ouvrier, de l'histoire des femmes et de l'histoire des peuples opprimés. En gros, il s'agit de revaloriser une certaine historiographie aussi en opposition à celle qu'on pourrait définir une historiographie des classes dominantes. Et ces sujets, cet enjeu est assez particulier, assez important par rapport à la question de l'anticommunisme de ce soir et surtout de la grève générale. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler par la suite. Pourquoi c'est important? Parce que voilà, on est en novembre 2018, donc il y a un centenaire depuis la seule grève générale stricto sensu que la Suisse a connue. Et donc les chiffres font débat, sont intéressants et tout le monde en a parlé. Et je voulais justement vous citer quelques extraits d'un article qui est récemment paru à l'intérieur du journal de la Fédération des entreprises Jean-Voix, donc en gros, pas Jean-Voix, désolé, Roman, mais le journal des associations patronales qui nous montre bien quelle est la lecture historique de cet événement qui continue à exister à l'intérieur de certains milieux. Donc je vais juste vous lire en guise d'introduction. Déjà le titre. Le titre « Faut-il commémorer la grève générale de 1918 ?» Il parle...
C'est une bonne question.
C'est une bonne question, c'est une très bonne question. On regardera leur réponse. Il parle de la réalité suisse, justement, et il cite Lénine, Trotsky, Zinoviev, les mouvements les plus extrêmes côtoyés des socialistes raisonnables. La population suisse a fait un lien entre cette grève et l'agitation communiste. Beaucoup ont même pensé qu'il s'agissait des troubles fomentés depuis l'étranger. Ils avaient à la fois tort de le soupçonner et à la fois raison. Tort, et là je saute parce que c'est assez logique, tort parce que les disparités sociales de la Suisse en 1918, le clivage entre une élite et les peuples, voilà. Tort parce qu'il y avait quand même des raisons en terre. Là c'est plus intéressant. Mais ils avaient aussi raison parce que l'état d'esprit de la gauche à l'époque n'était pas celui qui prévaut aujourd'hui, alors que l'échec du communisme est consommé. Les bolcheviks étaient déterminés à être les initiateurs d'une révolution mondiale. C'était des utopistes dont le projet était de créer une forme de civilisation supérieure au capitalisme. Ils s'identifièrent donc comme internationalistes. Voilà pourquoi les Suisses étaient à juste titre soucieux de ne pas importer cette idéologie chez eux et de faire barrage aux idées communistes. Voilà. La grève et la question comme idéologie emportée, et encore plus intéressant à mon avis, c'est le final. La grève, et en général tout le mouvement, a été contre-productif. On peut se demander si la grève générale de 1918 n'a pas été un événement contre-productif, qui aurait accru la méfiance de la population envers les socialistes et la gauche en général, qui aurait instauré une certaine distance entre patrons et ouvriers, appelés naturellement à collaborer, qui aurait instillé la crainte durable des conflits sociaux, dégénérant en troubles incontrôlables, tout sentiment auquel les Suisses répugnent et qu'ils ont heureusement su maîtriser. Donc voilà, en guise d'introduction, je pense que c'est intéressant de répondre à la question posée par l'article. Est-ce qu'il faut commémorer la grève générale de 1918? Nous, on pense qu'en oui, déjà, il faut la commémorer. C'est pour cette raison qu'on a aussi préparé les affiches qu'on prépare d'habitude pour commémorer le centenaire de la grève générale. Merci à Thomas qui, à chaque fois, réalise les sérigraphies pour nous, qui vous les trouverez en nous pour soutenir les activités de l'atelier. Mais on ne peut pas se limiter à la commémoration, il faut certainement se plancher sur ces enjeux, les analyser et quelque part les opérationnaliser. Et la question de l'anticommuniste et donc d'une historiographie très largement dominante en Suisse, c'est à notre avis une très bonne clé d'entrée pour revenir sur le sujet. Et c'est pour cette raison qu'on a invité On a invité deux spécialistes de la question. On a Michel Kaya, historien, auteur d'un livre sur l'entente internationale anticommuniste. On en parlera aussi après. Et Stéphanie Roland, historienne de l'Université de Fribourg, dans sa thèse de doctorat portée aussi sur l'entente internationale anticommuniste. Yeah. Et très largement expert de la question. Donc, je leur laisse la parole et ils vont si j'ai bien compris, ils vont s'intercaler. Voilà, je laisse à leurs mains. Merci beaucoup. On a les différentes sérigraphies et les informations sur l'atelier à la sortie et on se reverra après pour la discussion.
Merci beaucoup pour l'introduction. J'ai lu aussi cet article pour la FER là, de Marie-Hélène Miotton, je pense, donc une ancienne chroniqueuse du temps, très intéressante, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter de ça. Donc, moi, je poserais plutôt une autre question, c'est pourquoi commémorer la grève générale de 1918 ? Alors, il y a eu deux types de réponses, hein, les syndicalistes se sont posé la question comment il fallait commémorer et pourquoi surtout. C'est peut-être pour s'en inspirer, hein, s'inspirer de cet événement majeur qui fait pratiquement entrer la Suisse dans le XXe siècle, s'en inspirer pour les luttes actuelles, en reprenant ce que l'un des meneurs principaux de la grève, Grimm, avait dit à l'issue de la grève, à savoir que finalement c'était une défaite victorieuse. Hein. Et puis certains syndicalistes ont repris cette idée pour dire finalement toutes les grèves, au final, elles sont victorieuses. Alors c'est une vision peut-être très positive de l'événement. Et puis pour d'autres, hein, comme Madame Newton, les milieux patronaux, célébrer la grève, non, mais finalement commémorer la grève, ça sert plutôt à célébrer la paix du travail, le mythe de la paix du travail en ce qui concerne les historiens, le mythe des conventions collectives de travail. Et puis ça leur a beaucoup servi à essayer de faire valoir l'idée qu'il y avait un lien entre le haut niveau de vie de la Suisse, encore actuel, et la bonne compétitivité du pays, et puis le fait qu'il y a très peu de jours de grève dans ce pays. Alors, évidemment, il y a beaucoup de contre-exemples, ça ils le disent moins volontiers, hein. Vous prenez le Danemark, qui je pense a aussi un très bon niveau de vie, un bon niveau de compétitivité, et qui a, un des records européens du nombre de jours de grève. Bref. Alors, cette grève générale, peut-être aussi la replacer dans son contexte. Alors, j'ai simplement repris un petit diagramme statistique tiré du dictionnaire historique de la Suisse sous la notice grève, où vous voyez finalement que c'est un point culminant, certes, en même temps ça continue encore un petit peu en 1919, il y a encore des grèves très très importantes, ça commence à se tasser après les années 20, mais ceci pour souligner qu'il y a de manière plus large, vous voyez qu'après ça se tasse vraiment carrément, avec une résurgence des grèves à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, dont on a assez peu parlé, peut-être commémorer la grève, ça peut servir à montrer qu'il y a des points encore à rechercher dans l'histoire, d'autres grèves qui sont passées un peu plus sous silence. Bref, la grève générale 1918, elle prend place dans une montée assez spectaculaire à partir des années 1890, du nombre de grèves qui augmente, donc ceci pour casser un petit peu le mythe selon lequel selon lequel la Suisse ne serait pas un pays qui a connu les grèves. Elle en a connu autant et peut-être même davantage que les pays environnants. Entre 1880 et 1914, c'est pas moins de 2416 grèves répertoriées. Hein, donc c'est vraiment assez conséquent. Ensuite, il y a eu un certain nombre de grèves générales, mais locales. Hein. La grève de novembre 18, c'est la première grève et la seule jusqu'à aujourd'hui grève générale nationale. Mais avant cela, il y en a eu à Genève un certain nombre, en 1902, en 1907, à Neuchâtel en 1906, à Zurich, une grève très importante en 1912. Puis à nouveau, nouvelle en 1919, donc vous voyez, ça prend place dans un ensemble. Et puis pour la question de l'anticommunisme, si cette grève, il faut la relativiser, on a voulu peut-être lui donner une importance excessive en disant que c'est le point de départ de l'anticommunisme en Suisse, c'est pas tout à fait vrai, on ne peut pas la considérer comme telle, et au moins pour deux raisons. D'abord parce que la grève ne marque pas le point culminant de la révolte, hein, vous voyez, c'est un peu plus compliqué que ça, de la révolte du mouvement ouvrier, du soulèvement, mais plutôt le début de sa pacification, entre guillemets, comme vous pouvez le voir sur ces diagrammes. Puis ensuite, parce que l'anticommunisme apparaît au milieu du 19e siècle déjà, hein, c'est vraiment un mouvement ancien, même avant l'apparition du vocable communisme. Ce qu'on appelle alors anticommunisme, finalement, c'est plutôt de l'anti-radicalisme. C'est un instrument politique qui est utilisé d'abord par les libéraux conservateurs pour contrer la montée du radicalisme et qu'on appelle menée communiste. Hein. Il y a une première loi qui date de 1846 à Zurich, la loi contre les menées communistes. Hein. C'est là que le mot apparaît. Et puis on accuse à ce moment-là les radicaux suisses d'être trop tolérants à l'égard d'ouvriers étrangers, particulièrement des ouvriers allemands, qui professent en Suisse une idéologie, ce qu'on appelle le socialisme utopique. Donc là, il y a déjà une première collusion entre anticommunisme et xénophobie qui est établie. Et puis, on arrive comme ça aussi, après, du radicalisme, la cible va changer. C'est au moment de l'apparition de la création du Parti Socialiste, de l'Union Syndicale Suisse. C'est les nouvelles cibles de ce qu'on peut mettre sous l'appellation anticommunisme. Vous voyez que les cibles sont changeantes. Puis à la fin des années 1800, dans les années 1890, ce qui fait peur, c'est les anarchistes. Hein. On les associe facilement aux Italiens. Donc voilà, ce lien assez fort avec la xénophobie, qui est vraiment une composante essentiel de cet anticommunisme, puisqu'on a cherché à faire croire que le danger était importé, soit notamment par des ouvriers allemands, ensuite des ouvriers italiens, etc. Puis avec le début de la guerre, la Première Guerre mondiale, la plupart des étrangers, hein, qui étaient très nombreux en Suisse, spécialement dans les grands centres comme Genève, bien ils doivent rentrer dans leur pays d'origine. Donc là, à ce moment-là, la xénophobie devient un petit peu plus difficile à instrumentaliser pour lutter contre tous ceux ou toutes les tendances qui visent un peu à mettre en cause l'ordre social. Alors c'est là que je cède la parole à Michel Gaillard qui va nous expliquer cette transition finalement. Quand les étrangers partent, qu'est-ce qui les remplace?
Les réfractaires et les déserteurs. C'est-à-dire que la Suisse, pendant la guerre, va être le refuge d'un certain nombre de personnes, des pacifistes notamment, comme Romain Rolland, français, qui va écrire un retentissant article dans le journal de Genève au-dessus de la mêlée, des pacifistes plus radicaux comme Guillemot par exemple, des anarchistes, des gens qui refusent de partir à la guerre, et dont le nombre au cours du conflit va croître. Donc le visage de l'étranger subversif va s'incarner dans cette population en 1917-1918, de même que la peur du rouge va être l'anarchiste qui était la figure type qui incarnait cette peur, va être remplacée par celle du bolchevique qui suit les enseignements de Lénine. Il ne faut pas oublier que Lénine a séjourné en Suisse, lui, Radek et d'autres révolutionnaires russes jusqu'en 1917 et que son retour en Russie, ce serait pas mal si on voyait la carte d'ailleurs, je ne sais pas comment on manier ça. Merci Stéphanie. Le retour dans leur pays des émigrés russes, évidemment, se fait à travers l'Allemagne, avec un accord passé avec les autorités allemandes, chacun ayant évidemment des arrière-pensées dans cette étrange, on va dire, collusion effective entre les révolutionnaires russes et l'Allemagne. C'est que l'Allemagne voit la possibilité, en les laissant passer, qu'ils sèmeront un désordre maximum dans la Russie tsariste, et peut-être la possibilité pour elle de vaincre dans la guerre, 1917 étant une année clé. Donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a déjà une première incarnation du complot, du mythe du complot bolchevique, dans l'idée que les bolcheviques ont partie liée avec le haut état-major allemand et avec l'impérialisme allemand d'une manière générale, qui repose sur les conditions, par exemple, dans lesquelles Lénine effectue son voyage à travers l'Allemagne. Effectivement, il faut bien un accord. Hein, on ne peut pas rejoindre la Russie depuis la Suisse, ce n'est pas possible, si on ne s'entend pas avec l'Allemagne. Hein, quand on regarde la carte, c'est une évidence. Et ce mythe du complot germano-bolchevique va prendre un visage différent au cours de l'année 1918, parce qu'en 1918, les conditions de la guerre changent. À partir de l'été 1918, les empires centraux, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, subissent défaite sur défaite, et la fin de la guerre, on voit bien se dessiner une victoire de ce qu'on appelle alors l'Entente, qui regroupe les démocraties occidentales, les États-Unis ayant rejoint le groupe formé par l'Angleterre et par la France et l'Italie, au printemps 1917. Comme en Russie a eu lieu la révolution russe au début du mois de mars, qu'on appelle la révolution de février, mais c'est pour des questions de calendrier, parce que les Russes adoptaient encore l'ancien calendrier julien, et par conséquent avaient 13 jours de retard sur le nôtre, la révolution de février s'est déroulée en réalité au début du mois de mars. Et Lénine arrive pendant l'été 1917 à fédérer quand même une large partie de la population russe autour de ces trois mots d'ordre, la paix tout de suite, la terre aux paysans et tout pouvoir aux soviets, c'est-à-dire ces organisations spontanées qui s'étaient créées parmi les ouvriers, les soldats et les paysans pour établir une espèce de démocratie directe. Et en Suisse, Lénine n'a pas d'intérêt particulier pour la Suisse, méprise profondément les social-démocrates suisses, parce que un mouvement révolutionnaire en Suisse n'existe pas en 1918. Il y a bien des gens qui rêvent de révolution, bien entendu, mais le mouvement ouvrier à cette époque, social-démocrate, est un mouvement modéré. Ce que les gens veulent, c'est de voir arrêter la détérioration de leurs conditions de vie, puisque les prix augmentent constamment, le ravitaillement étant très très très, très difficile. Le Conseil fédéral n'avait rien prévu, on a introduit le rationnement en Suisse qu'en 1917. Donc, ceux qui tirent leur épingle du jeu, c'est les paysans, évidemment, plus les munitionnaires, ceux qui fabriquent les armes, et évidemment, qui tirent un profit maximum de cette guerre, la Suisse étant au milieu d'États belligérants, étant entourée à la fois par des États appartenant à l'Entente et des États appartenant au groupe des empires centraux, elle joue évidemment sur cette. Elle a une position relativement privilégiée. Les choses sont très différentes durant le deuxième conflit mondial, mais là, c'est différent. Sauf qu'à partir du mois d'octobre, elle perd une partie de son contrepoids, puisque l'Allemagne et l'Autriche commencent à être elles-mêmes en proie des troupes révolutionnaires, le blocus que les alliés de l'Entente font poser sur les empires centraux est tel que la population se révolte et qu'en Autriche, comme en Allemagne, éclatera la révolution du mois de novembre. Donc on est dans un contexte international quand même extrêmement tendu, où pour l'Entente aussi, pour les alliés, il s'agit de gagner la guerre avant que le désordre s'installe dans toute l'Europe et que finalement les fruits de la victoire qui sont à portée de main leur échappent suite à une révolution sociale. Donc ils sont attentifs à ce qui se passe en Suisse. D'autant plus que les soviétiques ont envoyé à Berne, au au printemps 1918, une délégation dont le but pour Lénine était d'avoir, comme il disait, une fenêtre ouverte sur l'Europe, en particulier dans les pays de l'Entente. Mais il ne faut surtout pas mythifier l'importance de cette mission, la mission Berzin, du nom du chef de cette mission, Jan Berzin, elle dispose d'extrêmement peu de moyens. Comme vous voyez, communiquer avec la Russie, ça devient de plus en plus difficile, d'autant plus qu'en 1918 éclate en Russie la révolte des armées contre-révolutionnaires, des armées tsaristes, et que le pouvoir installé à Moscou, au centre bolchevique, est en train de vaciller. Donc, si je puis dire, Lénine et les gens qui détiennent le pouvoir à Moscou sont très loin de pouvoir, même s'ils le désiraient, apporter une aide quelconque à un mouvement révolutionnaire, si tant est qu'il en exista un en Suisse à cette époque, ce qui n'est pas le cas. Le comité d'automne, qui est porteur des revendications populaires pour de meilleures conditions d'existence, qui milite pour l'introduction de la proportionnelle, la semaine de 48 heures, le droit de vote des femmes, est un mouvement extrêmement modéré. C'est des syndicalistes, des social-démocrates qui le composent, et il agira plutôt, il sera plutôt à la remorque des événements qu'un moteur, on peut dire, de cet événement. On pourrait d'ailleurs voir dans la grève générale de 1918, non pas un conflit proprement ouvrier, mais plutôt une offensive de la bourgeoisie pour briser le mouvement ouvrier et utiliser précisément la grève générale pour parvenir à ses fins. Et il va se construire durant l'année 1918, on va vraiment voir l'élaboration d'un mythe, d'un complot orchestré par les bolcheviks à Moscou et le Parti social-démocrate suisse et les syndicalistes. Et pour que ce mythe fonctionne, il faut évidemment lui donner du corps, il faut évidemment qu'on l'alimente. Et c'est essentiellement le rôle des services secrets français, puisqu'à Berne, ils disposent à la fois d'un ambassadeur d'Utasta, qui est un proche de Clemenceau, qu'on appelle le père de la victoire, qui est donc pour la guerre à outrance, c'est pour terminer au plus vite le conflit avec l'Allemagne, et un attaché militaire qui s'appelle Pajot, qui est un personnage qui dispose d'un réseau en Suisse extrêmement important. Il utilise plus de 500 collaborateurs, rétribués ou non, parce qu'il y a énormément de gens, notamment dans la partie romande de la Suisse, la partie francophone, qui soutient la cause de la France et de l'Angleterre, et qui donne gratuitement, si je puis dire, des renseignements souhaités. Pajot va élaborer l'idée que les bolcheviks sont de mèche avec les sociaux-démocrates russes. Il en montra même, il ira même jusqu'à fabriquer des faux, notamment un qui est resté célèbre, qui s'appelle « Instruction de Lénine après la prise du pouvoir par la guerre révolutionnaire en Suisse ». Ces instructions qui ont été probablement élaboré par un publiciste franco-russe qui s'appelle Serge Tersky, qui écrivait dans la Gazette de Lausanne à cette époque des articles sur la Russie, qui était d'ailleurs lui-même assez bien renseigné. C'est probablement quelqu'un qui était proche des mencheviks ou des social-démocrates russes. C'est pas du tout un monarchiste, c'est pas quelqu'un qui défend l'ancien régime. Au contraire, Tersky salue la révolution dite de février dans les colonnes du journal de Genève et dans les colonnes du journal de Lausanne, de la Gazette de Lausanne, en disant « Enfin, c'est les démocraties contre les États autoritaires, contre l'Empire allemand, l'Empire autrichien, qui ont parti lié, comme souvent, avec les révolutionnaires russes. » Donc, c'est quelqu'un qui a des informateurs sur place et il fabrique un document qui publie d'ailleurs en avril 1919 dans la Gazette de Lausanne, soi-disant pour ne pas perturber le cours du procès auquel sont soumis les meneurs du comité d'automne qui ont déclenché la grève générale, qui sont traduits dans le tribunal militaire en avril 1919. Et il ne publie cet article qu'après la condamnation pour ne pas influencer, comme il dit, les juges. Alors qu'en réalité, c'est que s'il avait publié cet article avant, et le faux qui l'accompagne, il aurait dû s'expliquer probablement devant le tribunal et apporter la preuve que ces instructions que Lénine aurait données aux socialistes suisses était bien réel, et avec une existence, et qu'il y avait une collusion objective, c'est-à-dire physique, entre, par exemple, Jan Berzin, qui était supposé avoir reçu ce document et qu'il aurait transmis aux gens du comité d'Olten. Chose qu'il aurait été incapable de prouver, puisque ça n'a pas existé. Ces contacts n'ont pas eu lieu, ce document n'est pas parvenu dans les mains des sociaux-démocrates suisses, et Jan Berzin, qui aurait été supposé l'ordonner, n'a jamais rien reçu de tel à la fin du mois d'octobre 1918, comme on le prétend. Comme le prétend Persky dans son... Parce que finalement, c'est un double avantage. Ça permet, quelque part, effectivement, de donner une issue de minimiser, en quelque sorte, la grève générale, en la disqualifiant. Hein. Si on traite les gens qui ont organisé la grève générale d'agents étrangers, évidemment, la grève générale, par la même, perd de sa légitimité. Ce qui est d'ailleurs plus facile à réaliser, puisque précisément, les meneurs de la grève sont des gens plutôt modérés, qui n'avaient pas du tout l'intention de faire une tentative insurrectionnelle en Suisse. Malgré tout, dans les derniers jours d'octobre, surtout après que les employés de Banque Zurichoise se sont mis en grève, et grève qu'ils ont d'ailleurs gagnée face à des patrons inflexibles, il va y avoir de la part des milieux bourgeois les plus radicaux, on va dire les plus extrêmes, une véritable concertation pour savoir ce qu'il fallait faire. On va voir se mettre en branle non seulement l'état-major qui pousse le Conseil fédéral à prendre des mesures, notamment expulser la mission Berzin, notamment envoyer des troupes à Zurich en particulier, puisque c'est là que se situe l'épicentre de la contestation sociale à cette époque. Et des personnes privées, notamment Théodore Robert, cet avocat jeune moi sur lequel j'ai écrit ma thèse, qui est à l'époque vice-président du Global Plan Suisse, et qui va mobiliser les sections du Global Plan. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la montagne, c'est un sport qui est réservé à l'élite. Donc les gens qui font partie du Global Plan ne sont pas des ouvriers, ils n'ont pas les moyens de se payer de façon des piolets, des séjours à l'hôtel pour des carrières de servants, mais qui est l'apanage vraiment de la bourgeoisie, de l'élite. Il va mobiliser tout le réseau des clubs alpins pour former dans les différentes villes suisses des gardes civiques, c'est-à-dire des personnes privées qui vont suppléer, au cas où la grève générale éclate, qui vont suppléer à l'absence, à la carence de services publics. Donc il faut bien voir la grève générale davantage comme une réponse à cette mobilisation que le contraire. D'ailleurs, la grève générale qui éclate le 9, en réponse à l'envoi des troupes décidées par le Conseil fédéral à Zurich, parce que sur place, ils ont un informateur qui s'appelle Otto Reusser, qui est un enquêteur spécial de la Confédération, qui assure, document en main, que la révolution a éclaté en Suisse, à Zurich, dans quelques jours. On a d'autre part l'état-major, évidemment, qui pousse à la répression de la révolution, qui semble se profiler derrière le mot d'ordre de grève générale. Et puis on a aussi, surtout, la pression internationale. La pression internationale manifestée par les Français et les Britanniques qui sont abreuvés des rapports de ce Gaston Pajot, qui, lui, dit exactement la même chose, et qui font pression sur la Suisse. Et dans les premiers jours de novembre, au moment où l'Allemagne s'effondre, vraiment la révolution est faite à Berlin, à Vienne, à Budapest, eh bien... les gens menacent carrément d'intervenir militairement en Suisse si le Conseil fédéral ne prend pas des mesures sérieuses pour tuer dans l'œuf cette tentative révolutionnaire dont ils ont fabriqué eux-mêmes les contours, en quelque sorte. Il faut voir les choses plutôt dans cet ordre. La chronologie, d'ailleurs, le montre. La grève générale est proclamée pour le 9. Évidemment, elle se prolonge, normalement elle ne doit durer que 24 heures, mais elle se prolonge suite à l'intervention d'armée à Zurich qui est un mort, et le comité d'automne, poussé par sa base, si je puis dire, proclame la grève générale pour le 11 novembre, le jour de l'armistice, et donc ça tombe extrêmement mal parce que en Suisse romande, la grève générale va avoir de la peine à prendre. Mais donc il faut bien voir là, mythe du complot bolchevique donc est un mythe, puisqu'il n'y a jamais eu, je le répète, de collusion objective, réelle, physique, entre des émissaires éventuels russes. Je ne sais pas comment ils auraient pu parvenir en Suisse. La mission Berzin, incapable de réagir, et les sociaux-démocrates suisses, dont le seul but, c'est d'essayer d'obtenir une amélioration des conditions de vie de la classe ouvrière. Ils vont pas plus loin, ils cherchent pas un changement de régime à aucun moment. Sinon, d'ailleurs, ils auraient été condamnés à des peines bien plus lourdes si on avait pu prouver que ça avait été le cas. Ça avait déjà été assez difficile, Stéphanie en parlera, de trouver des chefs d'accusation, mais là, ça serait devenu vraiment mission impossible. Donc, il faut bien voir ça, cette situation. En plus, la Suisse voulait accueillir la conférence pour la paix, c'était proposé pour cela. Elle cherchait aussi à obtenir le siège de la Société des Nations qui allait être créée par le président Wilson, celui qui a conditionné son entrée en guerre à un règlement, enfin à la création d'une Société des Nations pour éviter que la reproduction de ce qui s'est passé en 1914, et qu'un résultat aura lieu plutôt négatif. Donc, elle se trouve dans une situation extrêmement difficile. Et le Conseil fédéral ne peut pas faire autrement que d'expulser la mission Berzin, cette mission soviétique, dont il accuse, alors qu'il sait très bien, il dispose quand même de renseignements de la première main, il sait très bien qu'ils ne sont pas du tout derrière l'état général. Et c'est un coup de maître, parce que, d'une part, il rassure les puissances de l'entente et il démine le terrain, ils n'ont plus de raison d'intervenir en Suisse, militairement, puisque l'armée suisse doit faire le travail. D'une part. D'autre part, il satisfait l'attente des milieux patronaux, des élites conservatrices, qui reprochaient au Conseil fédéral sa mollesse, parce qu'effectivement, en septembre, octobre, le Conseil fédéral hésite encore sur l'attitude qu'il convient de tenir face à un mouvement, d'une part, qu'il comprend mal, et d'autre part, un petit peu. Il sait manifestement qu'il n'est pas téléguidé de l'étranger. En expulsant la mission Berzin qui rend responsable du déclenchement de la grève le 8 novembre, donc encore une fois, avant que la grève se déclenche, il obtient là un résultat tout à fait remarquable. Parce que les grévistes apparaissent du coup comme responsables, après coup, en quelque sorte, des troubles qui pourraient se produire. Stéphanie, tu voulais intervenir peut-être là? Je parlerai après de l'after, si je puis dire, c'est-à-dire de l'utilisation de ce mythe dans les années qui suivent, et montrer que jusqu'en 2018, l'article dont on vient de lire en extrait le montre, est un mythe qui fonctionne.
Voilà, je ne dis pas à l'envie de montrer une photographie prise à l'époque l'expulsion fameuse de cette mission Berzin, cette pseudo ambassade en fait soviétique première.
Ils ont l'air redoutables d'ailleurs, ils ont l'air vraiment redoutables.
Un couteau entre les dents, ambassade. Non, voilà, c'était considéré comme l'un des hauts faits de l'armée. Et puis surtout, c'était présenté comme une mesure, je cite, d'hygiène nationale. Donc ce qui est intéressant ici, c'est l'utilisation de cette expulsion pour montrer qu'on se débarrasse du virus bolchevique, manu militari, à une époque où la grippe espagnole frappe très durement la Suisse. C'est un peu cette concomitance, cette concurrence en fait, de l'épidémie de grippe qui arrive justement à un pic en octobre-novembre, quand même cette grippe qui va faire au total à peu près 25 000 décès. Hein. Donc au mois de novembre, elle atteint un pic, c'est quand même assez... c'était trop beau pour ne pas l'utiliser quelque part. Et puis cette grève générale, alors... Qui se déclenche, tout ça, ça fait que l'anticommunisme, à ce moment-là, a ravivé. Et puis les troupes ont été envoyées particulièrement à Zurich, où c'est quand même un peu l'épicentre, hein, comme a dit Michel. Mais elles sont aussi envoyées à Berne, où pourtant, un peu plus calme, hein, Berne, plus ordré. Et puis justement, on envoie un bataillon de soldats, à dessein des soldats qui viennent plutôt de la campagne, en particulier un bataillon de fribourgeois, assuré et commandé par le lieutenant-colonel de Wisbach, qui, à ce moment-là, donc à Berne, il y a un drame qui se produit, c'est que voilà, la grippe frappe une quarantaine de soldats qui reviennent chez eux dans des cercueils. Alors les pauvres soldats sont morts à cause non pas du virus bolchevique, même si c'est comme ça que les autorités ont présenté les choses, ils sont morts à cause de l'état-major qui s'est assez peu préoccupé des conditions sanitaires dans lesquelles ces soldats étaient stationnés. Donc on fait passer le message officiel qu'ils sont morts de la grippe et de la grève. Hein, c'est comme ça que l'historien Laurent André a montré... C'était comme ça qu'on avait présenté les choses, et c'est aussi comme ça qu'on avait géré par la suite la mémoire de la grève générale. Voilà, le fameux lieutenant-colonel de Wisbach qui harangue les troupes à Berne. Et en réalité, enfin, c'est que les grévistes n'ont pas été en contact de ces soldats. À Berne, en tout cas, hein, ils devaient assurer le service d'ordre autour de la gare, où il ne se passait pas grand-chose. Et puis, le plus gros fait, ça a été d'expulser les bolcheviques, la mission Berdine. Donc là, il y a une confusion assez totale, surtout dans comment la grève va être commémorée et le décès de ces soldats. C'est assez drôle en fait. Bon, il y a d'abord toute une série de monuments aux soldats qui vont être mis sur pied, en tout cas dans le canton de Fribourg, comme ici à Bulle. Et puis vous voyez, le monument est un petit peu plus tardif, en 1932, mais les commémorations vont se poursuivre année après année. Là j'ai pris, ça date un petit peu, c'est 2005. Ce qui m'a intéressé, c'est aussi un petit peu le commentaire autour de cette, la légende, si on veut, autour de cette image, là, en 2005. On a l'impression qu'il y a un petit peu, on a perdu un peu le sens de cette commémoration. Je me demande si les deux soldats qui viennent porter cette gerbe de fleurs savent qu'est-ce qu'ils commémorent exactement. Vous noterez ici le passif qui est utilisé en mémoire des soldats tués. C'est pas par qui, par quoi ils ont été tués, hein, comme. On sait pourtant que c'est assez court. Donc la confusion, le sens de la commémoration est complètement perdu. J'espère que la commémoration du centenaire de la grève a peut-être permis de remettre certaines pendules à l'heure entre temps. Mais disons qu'en tout cas à l'époque, là je remonte un petit peu, je sais pas, les choses dans le bon sens. Donc là un article de la Sentinelle un petit peu, de 18 novembre 1918. Les morts, ces soldats qui rentrent chez eux dans des cercueils, c'est vraiment un enjeu politique assez fort. Quand paraît cet entrefilet, là, c'était vraiment tout en bas de la page 4, ça crée un peu un tollé. Hein, c'était un mot malheureux, je crois, de Jules Imbert-Drou, si je me rappelle bien.
Le titre.
Ouais. La grippe venge les travailleurs. Eh bien, je peux vous dire que la droite... n'a jamais oublié, n'a jamais pardonné le titre de cet entrefilet. Elle va le rappeler année après année, à chaque occasion, aux socialistes, pour retourner ce mot malheureux contre eux. Donc il faut dire que ça permettait de détourner l'attention du public sur les réelles responsabilités de l'armée, de l'état-major en particulier, dans ces morts qui sont revenus... dans les cercueils. Donc, les milieux bourgeois ont vraiment réussi à imposer cette interprétation de la grève, cette interprétation anticommuniste, jusque dans les années 60, comme vous savez, avec la publication de l'ouvrage de Willy Gauchy en particulier. Donc, les socialistes, j'ai dit, stigmatisés sur le long terme, en particulier pour Robert Grimm, un des leaders principaux, après avoir purgé donc, une peine quand même, je trouve, assez longue, on trouvait que c'était pas si long, mais 6 mois de prison pour faire grève, je sais pas, en tout cas, il n'aurait pas pu être jugé comme tel en temps de paix, parce qu'il n'y avait rien dans le droit normal, si on veut, qui aurait permis d'inculper les grévistes, apparemment. C'est parce qu'on était dans le régime des pleins pouvoirs, encore, en Suisse, qu'un tribunal fédéral a pu, un tribunal militaire fédéral a pu juger les grévistes. Donc voilà, il a purgé quand même 6 mois de prison. Ensuite, il est revenu à la vie politique. Il en a profité pour écrire un livre. Et puis en 1925, il était d'abord vice-président du Conseil national. Puis très logiquement, l'année suivante, par tournus, il aurait dû parvenir à la présidence. Ah, j'ai pas mis l'extrait qui concerne ça, mais il y a toute une campagne de presse dans la presse bourgeoise qui essaie d'empêcher l'accession de la
culture. Moi, à ce propos, c'est précisément en 1926 qu'on republie les fameuses instructions du Lénine révolutionnaire suisse par les soins de la tribune de Lausanne. Et c'est De Valière, un officier suisse qui publie ces articles en se basant sur les écrits de Persky et qui rappelle l'idée que la guerre générale a été fomentée à Moscou et par conséquent que Green ne doit pas devenir président du Conseil national pour cette simple raison. Il y a toute une campagne qui s'organise en 1926, on réutilise le mythe du complot bolchevique.
Et puis je pense que c'est un petit peu du jamais vu, je ne sais pas si ça s'est reproduit dans l'histoire du Conseil national, qu'on empêche pareillement quelqu'un d'accéder à la présidence. Enfin voilà. Tout ça pour dire finalement que il faut voir une continuité entre l'avant et l'après grève générale du point de vue de l'anticommunisme. Donc comme a dit Michel, c'est vraiment utiliser le complot bolchevique. Encore pour stigmatiser les sociodémocrates en particulier. Il y a vraiment une continuité entre le premier anticommunisme du 19e siècle, celui de l'entre-deux-guerres, et puis on peut, avec l'historien Michios, on peut vraiment établir une continuité avec les pratiques de fichage qui ont cours après la Deuxième Guerre mondiale par la police politique. Donc l'anticommunisme apparaît vraiment comme une constante de la culture politique suisse. Il a notamment servi à rapprocher les partis de droite aussi, qui seraient restés peut-être plus divisés sans cet ennemi commun, y compris l'ancêtre de l'UDC, donc le PAB, qui au départ, pendant la Première Guerre, était créé quelque temps avant la grève, était plutôt opposé aux élites, aux profiteurs de guerre, etc., mais du fait de l'irruption de ce nouvel acteur, le gréviste pseudo-bolchevique, a pu se rallier au camp bourgeois de cette manière-là. Et puis on a pu croire que l'anticommunisme n'avait plus lieu d'être en Suisse après la chute du communisme en 1989 puis 1991. Mais ce qui me fait, je traque toujours les signes qui persistent, les petites résistances comme ça, certains reliquats de l'anticommunisme qui ont dû faire rire les députés vaudois quand ils ont vu que dans leur constitution vaudoise, donc, il restait un article, une loi de 1938 anticommuniste qui interdisait toute activité en lien avec l'internationale communiste. Elle est demeurée comme ça dans la loi, vous voyez, jusqu'en 2014, où elle a Son abrogation a été votée à l'unanimité, moins une abstention. Et puis, il y a des formules comme ça, réflexes, qui me semblent bien ancrées dans une certaine mentalité helvétique, ou en tout cas dans la mémoire collective, qui ont l'air d'être toujours prêtes à ressurgir, comme ici, dans l'initiative socialiste hindouse, pour des salaires équitables, où il y avait ce tout ménage de l'UDC qui titrait non aux expériences communistes. Je pense aussi que les pratiques de dénigrement, d'amalgame, de fichage dont j'ai parlé tout à l'heure et de surveillance qui avaient fait miracle contre les socialistes utopistes allemands au au XIXe siècle, contre les socialistes pendant l'entre-deux-guerres. Et bien on voit que ces mécanismes qui semblaient propres à l'anticommunisme peuvent être convoqués contre les immigrés, contre ceux qui les défendent, dans un contexte de crise migratoire, et puis aussi bien sûr dans un contexte de peur panique du terrorisme et de l'islamophobie. Je pense que là, il y a des mécanismes qui peuvent ressurgir.
Bon, on va arriver à la conclusion, mais je vais encore dire deux mots peut-être de l'usage du complot bolchevique, parce qu'il y a un événement qui est particulier à notre ville et dont on a célébré la mémoire il n'y a pas longtemps, c'est les événements du 9 novembre 1932. Et en 1932, rappelez brièvement les faits, des membres de l'Union nationale, parti d'extrême droite à l'époque, ont organisé une espèce de mise en scène, une mise en accusation publique des leaders sociaux-démocrates de l'époque, Léon Nicole et Jacques Dicker. Ils n'étaient donc pas des communistes, au contraire, le journal communiste vomissait sur eux à longueur de page chaque semaine, dénigrait ces personnages, donc qui étaient tout sauf des communistes, même si dans leur rhétorique, ils utilisaient, on peut dire, des formules qu'on pourrait appeler un certain populisme de gauche. Et en réponse à cette mise en scène qui avait lieu à la salle communale de Plainpalais, les socialistes ont répondu par la convocation d'une manifestation qui a rassemblé 400 000 personnes. Et à l'issue de cette manifestation, alors que certains des manifestants escortaient les soldats qui avaient maladroitement essayé de faire refluer la foule en direction de la plaine de Plainpalais en s'y prenant d'une manière extrêmement maladroite, armée qu'elle était appelée par le Conseil d'État de l'époque, on avait persuadé, parce que deux membres du Conseil d'État quand même faisaient partie de l'Union nationale, il ne faut pas l'oublier, notamment Turatini, l'armée avait été appelée parce que on pensait que cette manifestation n'était que le prélude d'une insurrection, en l'honneur notamment de l'anniversaire de la prise du pouvoir par les bolcheviques, mais qui a lieu le 7 novembre, pas le 9. Et l'armée acculée devant le Minimail, qui était à l'époque le palais de l'exposition, pour sauver son honneur, a tiré sur la foule, a tué 13 personnes, blessé assez grièvement une soixantaine d'autres personnes. La plupart des blessés sont blessés dans le dos, d'ailleurs, on a les rapports médicaux, parce que la police n'a pas donné la peine de faire un relevé, notamment de la position des corps, il n'a absolument pas du tout intervenu dans cet événement. Et on a utilisé de nouveau le complot bolchevique dans le journal de Genève, on publie en disant comme en 1918, en 1932, les bolcheviques sèment le virus révolutionnaire et on paye un lourd tribut à ça. C'est ce qui a fait que les seules personnes qui ont été condamnées dans ce massacre, parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement, il faut bien dire d'ailleurs que sur les 13 personnes qui ont été tuées, il y en avait 6 ou 7 qui n'étaient absolument pas des participants à la manifestation. Et d'ailleurs, ces 13 morts, ça prouve qu'il y avait très peu de monde. Parce que quand vous tirez, notamment avec un fusil mitrailleur sur une foule compacte, ce n'est pas 13 morts que vous faites, c'est beaucoup plus. Donc si le nombre de morts a été quelque part peu élevé, si ça s'était réellement s'agit d'une tentative insurrectionnelle, s'explique par le fait qu'il y avait justement très peu de monde et que plusieurs des personnes qui ont été tuées étaient des passants, notamment des gens qui étaient membres de partis de droite. Je pense au boulanger du Bon de Faux, qui n'était pas du tout révolutionnaire, un maître d'école, Rappard, qui officiait à Chênebourg, et puis un jeune qui rentrait de cours du soir, qui était un employé de banque et qui n'était certainement pas un militant socialiste. Donc on a réutilisé pour cet événement, et ça a permis au Conseil d'État de l'époque de se déloigner, même s'il a perdu les élections l'année suivante, et en condamnant Nicole et les responsables socialistes en disant que c'est de leur faute, en quelque sorte, que cet événement tragique est arrivé, on arrivait à, en quelque sorte à dédouaner l'armée de... Alors qu'il suffit de lire les comptes rendus des journaux de l'époque pour se rendre compte que la responsabilité incombe entièrement à l'armée, et pas du tout aux manifestants. Il n'y a même pas eu d'émeutes au sens propre du terme. Les seules vitrines qui ont été cassées, c'est celles occasionnées par les balles des fusils. Il y a eu moins de déprédations que n'importe quelle manifestation actuelle à Genève, où il y a des gens qui brisent des vitrines. Rien de tel s'est produit en 1932. On l'a réutilisé en 1934 pour essayer d'empêcher l'entrée de l'URSS dans la SDN. Et ce printemps encore, Blocher, dans un discours, Christophe Blocher, réutilisait ce mythe de la main du bolchéviste dans la générale pour justifier la politique de l'UDC, et notamment cette phobie d'immigration. Alors voilà, le temps est venu peut-être à vous de poser des questions, de nous interpeller, ou de demander des précisions, auxquelles on sera une joie de répondre.